Dans le cadre des émissions spéciales sur les événements du pays organisées par Fréquence Sillé, votre radio locale vous propose une émission consacrée à Jean Zay. Estelle.
Bienvenue à l'antenne de Fréquence Sillé 97.9 FM. Notre invité d'honneur aujourd'hui s'appelle Pierre-Louis Emery. Il est présent dans la cité scolaire Paul Scarron pour présenter une conférence sur Jean Zay, grand homme qui sera prochainement intronisé au Panthéon à Paris. Alors tout d'abord, on va commencer par une question de Inès.
Donc bonjour Monsieur Emery. Bonjour. Pour commencer, voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors je suis Pierre-Louis Emery, ancien professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Zay à Orléans. Et depuis ma retraite, j'ai pris la présidence du Cercle Jean Zay, qui est une structure qui a été fondée en 1996 pour travailler sur la mémoire de Jean Zay et faire en sorte que cet oublié de la République ait le sort qu'il mérite.
Depuis quand et pourquoi vous intéressez-vous à Jean Zay ?
Alors, je m'intéresse à Jean Zay depuis tout petit, puisque ma famille connaissait Jean Zay. Mon grand-père était un militant catholique du Sillon, et se situant donc à l'époque, au moment du Front populaire, dans le Rassemblement populaire, donc proche de Jean Zay, radical, à gauche. Et donc c'est une tradition familiale, puis c'est un intérêt aussi, je dirais, intellectuel et historique de ma part, et des liens que j'ai pu nouer avec les deux filles de Jean Zay par la suite, Catherine et Hélène.
Donc maintenant, une question de Melvina.
Donc pour nos auditeurs qui n'ont pas pu assister à votre conférence tout à l'heure, pourriez-vous nous parler de Jean Zay ?
Ce que je peux dire de Jean Zay, c'est que, oublié de la République, c'est quelqu'un qui a été à l'origine d'un nombre invraisemblable de mesures, de décrets, d'idées. Un personnage qui était visionnaire, qui était très moderne dans sa façon de concevoir la vie politique et ce qu'il fallait faire quand on était au gouvernement. Alors, aussi bien dans le domaine de l'éducation, mais moins connu sans doute dans le domaine de la culture. Voilà donc un personnage qui, assassiné à 40 ans, entouré d'amis qui étaient aussi très compétents et plein d'idées, un peu plus jeunes que lui, parfois ou non, a su initier des projets extrêmement novateurs.
Merci, Anicia.
Quel est l'aspect de la biographie de cet homme qui vous passionne le plus ?
Bien sûr, pour le grand public, c'est son martyr. Pour moi, bien sûr, je ne l'évacue pas connaissant la famille Zay, Catherine et Hélène, mais c'est surtout ce que je retrouve à chaque fois que je reprends le livre qu'il a écrit en prison, toutes ses idées, toutes ses propositions. Et finalement, c'est un peu un guide, une aide pour ceux qui veulent réfléchir maintenant.
Alors, on va écouter un petit morceau musical pour nous replonger dans cette période. On part en 1936.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau.
Alors, on part en 1936. Jean Zay, 1936, qu'est-ce qu'il y a de marquant ?
Alors, sa première expérience gouvernementale au sous-secrétariat d'État à la présidence, aux côtés d'Albert Sarraut, qui est le président du Conseil, le Premier ministre, si vous voulez. Et puis, sa réélection comme député, donc 1936, il a 32 ans, à peine. Et sa nomination en juin comme ministre, donc le plus jeune président, le plus jeune ministre de la Troisième République, et un des grands ministres de l'éducation. Il y a Jules Ferry, il y a Jean Zay, je ne sais pas qui il y aura après, l'histoire jugera.
Alors je crois que vous vouliez me poser quelques questions sur des réformes, oui. C'est Anicia qui reprend le micro, oui. Oui, on revient sur la question. Que...
Je voulais poser la question, c'était... est-ce que vous pourriez nous parler de tous les différents postes en fait qu'il a occupés tout au cours de sa vie en fait.
Alors député en 1932, très jeune par conséquent, vous voyez, et puis réélu en 1936 et conseiller général. Donc il n'a jamais été maire d'Orléans, il est resté donc très cohérent, puisque je parlais tout à l'heure de son souci de ne pas voir de cumul de mandats, et ministre. Ministre, il est resté sous 6 gouvernements différents, élu dans le cadre du Rassemblement populaire, donc un gouvernement plutôt de gauche. Il est resté à la demande de Léon Blum, qui a été, vous le savez, le président du Conseil, celui qui symbolise le Front populaire. Mais Jean Zay aussi symbolise le Front populaire, qui tente de perdurer sous les gouvernements. Il ne démissionne que, en gros, le 13 septembre 1940. Il est resté donc plus de 3 ans en fonction. Il a eu le temps de mettre en place une partie de ce qu'il souhaitait.
Alors, je vous propose justement, puisqu'on est en 40, d'écouter quelques notes de musique sur cette année 1940 avec Léo Marjam.
Après cette pause musicale, c'est Maëlle qui va poser des questions.
Alors, on aimerait savoir aussi les réformes et les lois remarquables qu'il a proposées.
Alors, de loi, il n'y en eut qu'une. C'est celle qui prolonge la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Et ça rentre dans un cadre qu'il voulait développer davantage et qu'il n'a pas réussi à faire passer sous forme de loi à cause de l'opposition de certains, même de ses camarades de parti, du parti radical, qui était beaucoup plus conservateur, si vous voulez. Donc, il a procédé par la suite, par expérimentation et par décret. L'aspect le plus important, c'est, nous sommes dans l'éducation nationale, il ne s'agit pas de donner une sorte de minimum de connaissances aux enfants, il faut qu'ils se construisent, qu'on fasse en sorte qu'ils développent l'esprit critique, l'observation, et donc, il existait en France 2 filières. Il y avait celle qu'on appelait la filière primaire. Le lycée où j'enseignais, c'est un lycée sur le fronton duquel il y a marqué EPS. Ça ne signifie pas éducation physique et sportive, ça signifie école primaire supérieure. C'était pour les enfants de milieu modeste qui accédaient à un diplôme équivalent du bac qui s'appelait le brevet supérieur. Jean Zay, lui, considérait qu'il fallait démocratiser et donc, dans un premier temps, rapprocher le lycée, qui a été payant jusqu'en 1930, fondé le système par Napoléon, et qui accueillait les enfants dès le CP. Et donc, les enfants de la bonne bourgeoisie ayant les moyens, à Orléans il y en avait, mettaient leurs enfants au lycée. Certains, d'autres, étaient boursiers. Jean Zay a été boursier au lycée Potier, Jeanne d'Arc à Orléans. Ma mère a été boursière aussi au lycée... lui, il était au lycée Potier, ma mère plus tard, au lycée Jeanne d'Arc. Donc, pour rapprocher ces deux filières, il a décidé que les programmes seraient les mêmes dans les deux structures. Et donc, ça a fait des oppositions aussi au niveau des certains enseignants, parce que certains craignaient que le lycée soit primarisé, c'est-à-dire qu'on restreigne un petit peu les ambitions. Et puis, les gens du primaire supérieur avaient peur d'être mangés, dévorés, éliminés par les professeurs de lycée agrégés, etc. Mais ça a marché. Et puis, un élément très important, je pense même toujours maintenant, c'est la classe d'orientation. La sixième... C'est une année pendant laquelle on teste ce que souhaitent les élèves, ce qu'ils sont capables de réaliser, on discute avec les parents, et ensuite on peut leur proposer de manière pertinente, est-ce que vous allez faire un enseignement plus moderne, sans latin, plus classique ou professionnel, puisqu'on a commencé à construire un système d'enseignement professionnel.
Alors on le voit, c'est donc un homme très investi sur les questions de l'éducation, mais c'est aussi quelqu'un qui était haï par beaucoup de gens à l'époque, ce qui va amener d'ailleurs sa situation en 40, que vous allez peut-être nous rappeler, et qui fait que aujourd'hui il nous intéresse particulièrement. Je vous propose, avant de rentrer dans cette période, d'écouter une chanson qui va tout de suite nous mettre aussi sur une autre partie très très positive, évidemment pour la majorité des gens, de la personnalité de Jean Zay.
Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons.
C'est évidemment un moment où l'animateur radio est ravi, parce que la désannonce de la chanson dont on vient d'écouter quelques extraits ne va pas être faite par l'animateur, mais par l'invité. Cette chanson, c'est qui, c'est quoi? Rappelez-nous.
Alors, c'est une chanson qui a été écrite pendant la guerre, à Londres. Elle est due à Anna Marley quant à la musique, une femme d'origine russe et juive, et puis... Quant à l'écriture, quant au texte, c'est Joseph Kessel et Maurice Druon, futur académicien, compagnon de route du général de Gaulle.
Avant de revenir aux autres questions avec nos jeunes amis, pourquoi 44 est une date importante dans la vie de Jean Zay? Et peut-être préciser ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les gens qui le haïssaient. Parce que c'est même pas fini d'ailleurs.
Voilà, alors bon, on peut faire le lien facilement. 44, c'est le résultat de décennies de dénigrement, de haine, d'hostilité envers Jean Zay. Ça a commencé tout jeune, dès qu'il s'est présenté aux élections législatives en 1932, et ça l'a poursuivi jusqu'au bout. C'était le juif Jean Zay, c'était le négrite juif sous la plume de Céline, dans je ne retrouve plus le titre de l'ouvrage. Et quelque chose qu'on ne peut pas imaginer maintenant, quant à la violence des termes, et même pratiquement la violence physique qui pouvait s'exercer à certaines occasions dans la rue. Léon Blum a été victime d'agression de la part de militants d'extrême droite qui venaient à l'enterrement de Bainville, un écrivain donc maurassien. Donc une haine et toute cette construction intellectuelle de l'antisémitisme, eh bien c'est ce qui a armé les assassins de Jean Zay, les membres de la milice sous l'autorité de Joseph Darnand, le chef de la milice.
Donc on va reprendre avec une seconde question de Maëlle.
Alors on aimerait aussi savoir, selon vous, quelle trace il laissera-t-il dans l'histoire de la France et ce qu'on devrait retenir de sa vie et son œuvre.
Alors c'est une trace que nous avons, que vous aurez peut-être aussi à entretenir, parce que Jean Zay revient dans la mémoire collective, dans la mémoire nationale. Il a été oublié pendant plusieurs décennies, tant au niveau national, parce qu'il n'avait pas d'amis qui pouvaient rappeler ce qu'il fut, puisqu'il était membre du Parti radical, et ce Parti radical a été, sur le plan des élections, sur le plan électoral, plus ou moins balayé dès les débuts de la Quatrième République. Il n'était pas socialiste, il n'était pas communiste, il n'était pas gaulliste, et donc on l'a oublié. On l'a oublié aussi bien au ministère de l'Éducation nationale que dans le domaine de la culture. Et pourtant, donc c'est à nous qui le redécouvrons, qui à chaque fois qu'on le lit, parce que c'était aussi une plume extraordinaire, c'était aussi un écrivain. Donc on va se repencher avec la panthéonisation, on va découvrir des facettes de ce personnage qui est un homme d'État immense.
Donc maintenant c'est au tour de Léa.
Donc le 27 mai, Jean Zay sera intronisé au Panthéon. Allez-vous assister à ce transfert ou à cette commémoration ?
Oui, alors Jean Zay va rentrer au Panthéon auprès avec trois résistants. Et j'insiste là-dessus parce que d'aucuns à l'extrême droite lui dénient le caractère de résistant. Or, notre ami président de l'Association nationale des amis de Jean Zay, Antoine Pro, grand historien, a trouvé une formule que j'aime beaucoup. Jean Zay est un résistant de la veille. C'est-à-dire il n'a pas attendu la guerre pour s'opposer au fascisme à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, entrer au Panthéon, oui, j'y serai, j'ai été invité en tant que président du cercle et je m'en réjouis comme un gamin parce que ça va être un moment extrêmement émouvant.
Et est-ce que nous, on peut y assister ou pas ?
Alors, si j'ai bien compris le carton d'invitation, la cérémonie aura lieu en extérieur et par conséquent, je pense que rue Soufflot, il y aura peut-être des contrôles de sécurité, mais la possibilité pour un public d'être présent et c'est souhaitable.
Donc maintenant, autour de Élise.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette cérémonie va se dérouler au Panthéon ?
Alors ça, je n'ai pas beaucoup de renseignements. Catherine et Hélène, les filles, n'en savent pas beaucoup plus. Mais bon, ça approche. J'espère qu'on en saura quand même un peu plus. Je sais qu'il y aura de la musique. Je sais qu'il y aura des présentations d'œuvres. Je pense que c'est Ernest Pignon qui va faire ces œuvres-là. Il y aura donc tout un cérémonial et c'est intéressant de voir ce que la République peut réaliser en tant que grande pompe pour que ça reste visuellement et puis émotionnellement dans la mémoire des gens.
Donc je vais vous poser la dernière question. Donc quelle est l'importance d'être intronisé au Panthéon de nos jours ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors c'est une reconnaissance. Une reconnaissance essentielle, ça a été très important par exemple, et j'en parlais à Chartres, pour Jean Moulin. Et Jean Moulin aussi un calomnier, c'est-à-dire qu'on l'a accusé d'être un agent de Moscou, donc que les vieilles haines recuites, elles sont toujours présentes. Donc une reconnaissance pour la grandeur du personnage, pour l'œuvre qu'il a réalisée, et pour l'exemple qu'il peut représenter pour les jeunes générations. Et en tant qu'ancien ministre, enfin comme ministre de l'Éducation nationale, c'est important parce que son objectif, c'était non pas de faire des petits républicains, mais de faire des hommes libres qui se construisent en étudiant, en faisant des efforts, en réfléchissant, et qui se construisent leur propre personnalité pour devenir des citoyens actifs.
D'accord, merci. Donc, merci à notre invité Pierre-Louis Emery de nous avoir éclairé sur la vie de ce grand homme, Jean Zay, un résistant mort en 1944 pour avoir défendu ses valeurs républicaines et qui trouvera sa place au Panthéon le mardi 27 mai 2015.
Dans cette émission, vous avez pu entendre Estelle, Inès, Célia, Melvina, Anicia, Maëlle, Léa, Élise et Guillaume, donc qui étaient au pupitre à la technique. Vous avez entendu également Jean Gabin dans la version de Quand on se promène au bord de l'eau du film La Belle Équipe de 1936, Léo Marjan interprétant Mon Ange, Germaine Sablon interprétant Le Chant des Partisans, et on a également eu la collaboration de Django Reinhardt avec Minor Swing et Echoes of Friends, qui est une reprise tout à fait sympathique de la Marseillaise. Dans le cadre donc de cette émission qui vous était présenté par Fréquence Sillée sur le 97.9. Ces émissions spéciales qu'on peut retrouver également sur le www.fréquence-sillée.org. Au revoir.